Bienvenue à la discussion « Le dissident évident ». Nous nous penchons aujourd'hui sur les documents d'une organisation, nommée Mifondation. Elle ne propose rien de moins, en fait, qu'une refonte complète de nos structures sociales, économiques et financières à travers un projet qu'elle nomme le « cycle de la rationalisation ». Et donc la question qui en découle est vraiment au cœur de notre échange. Le modèle de la Mifondation, avec ses concepts très ambitieux comme l'économie chrysalide ou l'humanité augmentée, est-ce que c'est une feuille de route crédible et, disons, souhaitable pour notre avenir? Ou bien une utopie dont la grandeur masque des dangers et des impasses pratiques? Je défendrai l'idée qu'il s'agit d'une réponse visionnaire et surtout nécessaire aux crises que nous traversons.
Le dissident. Et pour ma part, je vais explorer les zones d'ombre de ce projet.
Je questionnerai la faisabilité d'une telle ambition et les risques que pourrait comporter cette vision, aussi séduisante soit-elle en apparence. Alors, pour moi, l'attrait du projet vient d'abord de la clarté de son diagnostic. Les documents de la Mifondation partent d'un constat, qu'on peut difficilement contester, l'épuisement de ce qu'ils appellent le cycle de la sédentarisation. C'est-à-dire en fait un modèle basé sur une croissance infinie dans un monde fini, ce qui a logiquement conduit à l'épuisement de nos ressources. Ils identifiaient aussi un second problème, très actuel, le bug de la puissance cumulée. L'idée, c'est que l'outil numérique, qui aurait dû être un levier d'émancipation, est devenu un accélérateur de dérégulation, de polarisation et de destruction de valeur. Pensez par exemple à la manière dont les algorithmes optimisent les chaînes logistiques pour le profit à court terme, sans jamais intégrer le coût écologique.
Le dissident.
Ce diagnostic est pertinent, je vous l'accorde, tout à fait. Beaucoup d'analystes partagent ce constat d'une crise systémique. C'est vraiment dans la solution proposée que mon scepticisme s'éveille. Le projet est enveloppé dans un vocabulaire quasi messianique. Pense-fondation, rationalisation, nouveau cycle de l'humanité. Ces termes sont puissants, mais que signifient-ils concrètement? Avant même de débattre du fond, qu'est-ce que c'est? Une Pan-Fondation. Est-ce une sorte d'ONU privée, une fédération d'ONG, une nouvelle forme de gouvernance mondiale? La structure même, en fait, reste un mystère.
C'est une question légitime. Les documents la décrivent comme une entité supranationale privée, à but non lucratif, qui agit comme un tiers de confiance entre les États, les entreprises et la société civile pour justement orchestrer cette transition.
Sa force, c'est de ne pas être une simple déclaration d'intention, mais un système intégré qui repose sur trois piliers. Le premier, c'est un cadre éthique, la charte Hestia pour humanité, équité, éthique, solidarité, transparence, innovation, autonomie. Ce n'est pas un gadget, c'est le système d'exploitation de tout le projet. Le deuxième, c'est un moteur économique, l'économie chrysalide, qui vise à financer et substituer systématiquement les modèles polluants par des alternatives circulaires. Et enfin, le troisième, ce sont les moyens. Des fonds d'investissement humanitaire et durable qui garantissent, par la technologie, notamment la blockchain, une traçabilité totale des capitaux vers des projets à impact réel. Ce n'est pas une théorie, c'est un plan d'action. Le dissident.
Un plan d'action dont le point le plus audacieux et le plus inquiétant pour moi reste cette volonté de faire évoluer la Déclaration universelle des droits de l'homme en une charte de l'humanité augmentée. On nous parle d'y intégrer la règle des 3 P. La primauté de la personne et de la planète sur le profit. L'intention est noble. Mais toucher à ce texte fondamental, qui est le socle de nos libertés depuis 1948, pour y greffer une idéologie nouvelle, même bienveillante, me semble vraiment ouvrir une boîte de Pandore. Affaiblir un droit universel, au profit d'une vision du bien qui reste à définir, c'est prendre un risque immense.
Je vois cette évolution non pas comme un affaiblissement, mais plutôt comme une adaptation nécessaire. Mais restons sur le concret, si vous le voulez bien. Vous parliez de concepts flous, or le modèle économique et financier me paraît au contraire très tangible. L'économie chrysalide n'est pas juste un autre label vert.
Sa singularité réside dans son mécanisme. Le financement d'un projet, via des contrats intelligents sur une blockchain, est directement et automatiquement lié à des indicateurs de performance extra-financiers qui sont vérifiés en temps réel. Par exemple, une usine de recyclage ne reçoit ses tranches de financement que si et seulement si ses capteurs prouvent qu'elle a atteint ses objectifs de réduction de déchets. L'argent s'arrête littéralement si les promesses écologiques ou sociales ne sont pas tenues. C'est une rupture totale avec la finance traditionnelle où on promet beaucoup et on vérifie peu. Le dissident ?
Oui, d'accord. La traçabilité technique est un outil intéressant, j'en conviens. Mais elle ne résout pas la question fondamentale de l'échelle. Savoir où va l'argent, c'est une chose, mais comment cette panne fondation compte-t-elle mobiliser les capitaux nécessaires pour remplacer, par exemple, toute l'industrie des énergies fossiles ?
Le texte parle de mutualisation internationale des ressources et de réorienter la finance. C'est monumental. Comment comptez-vous convaincre les acteurs économiques mondiaux dont le modèle entier repose sur le cycle de la sédentarisation que vous dénoncez d'adhérer à ce nouveau système et donc de renoncer à leurs profits ? Sans une stratégie de déploiement crédible, ça reste une admirable niche pour investisseurs éthiques, pas une révolution systémique.
Justement, la réponse se trouve, je crois, dans la gouvernance. Vous sous-estimez, à mon avis, la force contraignante de la charte Hestia. Le document est très clair là-dessus. Ce n'est pas une suggestion morale, c'est un guide de conduite et un outil d'évaluation qui engage contractuellement tous les partenaires. Pour rejoindre l'écosystème M Fondation et bénéficier de ses financements, une entreprise ou une collectivité doit intégrer Hestia dans ses statuts et accepter d'être auditée sur ses critères.
C'est la condition d'entrée, en fait. La gouvernance qui place l'humain et l'environnement au premier plan n'est pas une option, c'est la structure même du système. C'est ça qui crée un effet de réseau. Plus il y aura d'acteurs dans cet écosystème, plus il deviendra économiquement avantageux d'en faire partie, ce qui marginalisera les acteurs qui refusent ces règles.
Le dissident. Mais attendez, je veux revenir sur ce que vous venez de dire. Un engagement contractuel n'a de force que s'il y a un arbitre crédible en cas de conflit. Et la charte elle-même est pleine de tensions potentielles. Prenons un cas concret. La charte prône à la fois l'innovation et la solidarité. Une entreprise partenaire développe une intelligence artificielle qui permet des gains écologiques massifs, mais qui menace de rendre obsolètes des milliers d'emplois dans une région. L'innovation s'oppose à la solidarité. Qui arbitre ? Selon quels critères ? La charte reste muette sur ce point.
Et ça nous ramène à ma question initiale. Qui dirige cette PAN-Fondation ? Qui nomme ses dirigeants ? Devant qui sont-ils responsables ? On parle d'une entité capable de dicter ses conditions à des entreprises et potentiellement à des États. Cette concentration de pouvoir non élu et non défini est vertigineuse.
Vous posez la question du pouvoir là où la MEFondation, elle, tente de poser celle de la responsabilité. Le but n'est pas de créer un nouveau centre de pouvoir, mais de dépasser un système juridique qui est à bout de souffle. C'est le cœur du concept de rationalisation. Il ne s'agit pas d'une rationalisation technocratique et froide, mais bien d'une réponse à l'irrationalité de notre système actuel qui encourage le conflit permanent. Aujourd'hui, notre droit est largement basé sur la confrontation des droits individuels. Le droit de propriété contre le droit à un environnement sain, la liberté d'entreprendre contre le droit du travail.
Cela mène soit à une paralysie, soit à la victoire du plus fort. Le dissident. Et que propose la M Fondation à la place ? Un droit humaniste fondé non plus sur l'antagonisme, mais sur la responsabilisation et la coopération. L'idée, c'est de passer d'un droit qui demande « ai-je le droit de faire cela ?» à un droit qui interroge « est-ce la bonne chose à faire pour le collectif ?» Il ne s'agit pas d'abolir les droits individuels, bien sûr, mais de les articuler avec des devoirs et une culture du, disons, du « faire bien », du « désintéressement ». C'est une vision qui me semble plus mature, plus adaptée à la complexité de nos défis collectifs qui ne peuvent pas être résolus par la simple addition d'intérêts particuliers.
Le dissident, c'est là que ma divergence est la plus profonde. Le mot rationalisation, il a une histoire. Il évoque le taylorisme, la gestion scientifique des sociétés, une vision où l'humain devient une simple variable d'ajustement.
Quant à l'idée d'un droit qui ne se base plus sur des règles claires, mais sur une appréciation de ce qui est bien, elle est extrêmement périlleuse. Qui définit ce qui est bien ? Selon quelle morale ? Le risque immense, et l'histoire nous l'a tragiquement enseigné, c'est de glisser d'un état de droit qui protège l'individu contre l'arbitraire en fixant des limites claires au pouvoir, à un état qui promeut une vision normative du bonheur et de la bonne conduite. C'est le chemin que de nombreux régimes autoritaires ont emprunté au XXe siècle, commencer avec la noble intention de créer un homme nouveau et finir par supprimer les libertés au nom de cet idéal. Je comprends la méfiance que ce vocabulaire peut inspirer. Le risque de dérive technocratique est réel et doit être activement prévenu, c'est une évidence. Cependant, le système actuel, fondé sur la confrontation et l'intérêt à court terme, n'est-il pas lui-même une forme de dérive qui nous mène collectivement à la catastrophe ?
Le projet M Foundation a au moins le mérite de poser la question d'une alternative radicale.
Le dissident et la pose, c'est vrai, mais sans y apporter de réponse institutionnelle satisfaisante, Si on veut un droit basé sur le désintéressement, il faut des gardiens de ce droit qui soient eux-mêmes irréprochables et contrôlés. Or, les documents restent totalement vagues sur les mécanismes de contrôle démocratique de cette fameuse panfondation. On nous demande un chèque en blanc sur la base de bonnes intentions.
Pour conclure, je maintiens que la force majeure de l'AM Foundation est de proposer une vision intégrée. Elle ne se contente pas de prôner une transition écologique, elle construit l'architecture financière, éthique et de gouvernance pour la rendre possible.
En articulant la charte Hestia, l'économie chrysalide et une finance transparente, elle offre une feuille de route cohérente là où nous n'avons aujourd'hui que des solutions partielles et souvent contradictoires. C'est un projet qui a le courage de penser le changement de paradigme dans sa globalité. Le dissident.
De mon côté, je persiste à penser que si le diagnostic sur nos maux est lucide, la solution proposée reste une construction intellectuelle aux contours trop flous et potentiellement dangereux. L'ambition de refonder le droit et de créer une entité de gouvernance mondiale non élue, sous des termes aussi vagues que rationalisation ou humanité augmentée, soulève bien plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le projet pourrait être une utopie admirable sur le papier, mais inapplicable dans le monde réel sans des garanties démocratiques et juridiques robustes, qui pour l'instant sont absentes.
Notre discussion met en lumière une tension fondamentale, je crois, qui dépasse le seul cas de l'AM Foundation. D'un côté, le sentiment d'urgence face à des crises systémiques qui appellent à des solutions radicales et audacieuses, le dissident, et de l'autre, oui, la nécessité impérieuse d'ancrer ces visions, aussi séduisantes soient-elles, dans des mécanismes concrets, transparents et surtout respectueux des libertés fondamentales que nous avons mis des siècles à construire. La question n'est pas seulement de savoir si le projet est souhaitable, mais s'il est compatible avec une société ouverte. Les documents de l'AM Foundation nous forcent à nous confronter à cet équilibre délicat qui est sans doute l'un des plus grands défis de notre époque.